Chapitre 14 à 16. Asa. Chapitre 14. Repos et force. Nous abordons le récit de l'heureux règne d'Asa, amené par la pure grâce de Dieu, comme il est dit de lui en 1 Roi 15, verset 4. À cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, dans la personne d'Asa. Tout est bénédiction pour Asa dans la première partie de son règne, et nous allons en voir la cause, mais aussi nous trouverons au chapitre 16 la cause de son déclin. On rencontre beaucoup de piété chez Asa. Il ôte de Juda toute trace d'idolâtrie, jusqu'au haut lieu que les rois, ses prédécesseurs, et même Salomon, avaient toléré, quoiqu'il n'entre pas dans le dessein des chroniques de mentionner la faute de ce dernier. Nous verrons au chapitre 15 qu'Asa ne garda pas jusqu'à la fin cette attitude énergique. Mais il fut, en Juda, le premier roi qui, au début de son règne, jugea les hauts lieux et les abattit, tandis que Jéroboam en avait fait une institution religieuse pour les 10 tribus et y avait même établi une sacrificature spéciale, chapitre 11, verset 15, à l'encontre du culte de l'Éternel à Jérusalem. Telle est toujours la conséquence de l'abandon du Dieu qui s'est révélé dans sa parole. L'homme ne peut pas vivre sans religion. S'il n'a pas celle du vrai Dieu, il en inventera une fausse pour satisfaire sa conscience et répondre à ses instincts. L'athéisme lui-même est une religion qui livre l'homme pieds et mains liés à la superstition, c'est-à-dire au culte des démons et à l'anarchie. Quand la volonté de l'homme est devenue son Dieu, Satan s'empare de lui et triomphe. Quel trouble, quelle agitation, quelle désespérance, quelle mortelle tristesse s'empare de l'insensé qui a dit en son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Et, par contre, quel repos dans la séparation du mal et dans le culte du Dieu saint, du vrai Dieu. La parole insiste ici sur ce point. De ces jours, le pays fut en repos pendant 10 ans. Verset 1. Le royaume fut tranquille devant lui. Verset 5. Le pays était tranquille, l'Éternel lui donna du repos. Verset 6. L'Éternel nous a donné du repos tout alentour. Verset 7. Quel usage Asa fit-il de ce repos? Il n'agit pas comme David, qui pensait à se reposer lorsque les siens allaient en campagne. Au contraire, il se servit de la tranquillité que Dieu lui accordait pour se défendre contre l'ennemi de dehors. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles et de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos tout alentour. Et ils bâtirent et prospérèrent. » Versets 6 et 7. Quel enseignement l'attitude d'Asa nous donne. Quand Dieu nous accorde du repos, c'est afin que nous puissions déployer toute notre activité pour nous prémunir contre les attaques de l'ennemi. Ce dernier ne tardera pas à revenir. Nos moyens de défense et nos forteresses sont la parole et rien que la parole. Utilisons les temps où nous ne sommes pas assaillis par la tourmente pour nous fonder sur la parole et y puiser notre force de résistance. Cependant, les villes fortifiées dont l'entrée est interdite à l'ennemi ne suffisent pas. Asa possède une armée aguerrie. Et Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la pique, et de 280 000 de Benjamin, portant l'écu et tirant de l'arc, tous des hommes forts et vaillants. Verset 8. Pour ne pas subir une défaite dans le combat, il faut porter les armes de la main droite et de la main gauche et savoir avant tout se servir de l'épée à deux tranchants qui est la parole de Dieu. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons, après avoir tout surmonté, demeurer fermes quand le combat se présente. L'attaque de Zérak, l'Éthiopien, passée sous silence dans le premier livre des rois, se produit alors. Que va faire Asa? Il est dans le même cas que son père vis-à-vis de Jéroboam, chapitre 13. Avec 580 000 hommes, il lui faut combattre Zérak, qui en a 1 000 000 sous ses ordres. Mais au lieu de se fier comme Abijah au mérite de sa religion pour gagner la bataille, Asa s'est assis d'avance et a délibéré s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000. Le résultat de sa délibération ne lui laisse aucun doute. Il sort au devant de l'ennemi. Quelle est donc la source de son assurance? Son bon droit? Sa religion lui donnant la certitude, comme à son père Abijah, que Dieu doit être avec lui? Ce n'est point là qu'est le secret d'Asa. Asa est un homme de foi, ayant appris avec Dieu qu'il ne peut avoir aucune confiance dans la chair, mais qu'en dehors de lui existe une source de force à laquelle il peut immanquablement recourir. Sa relation quotidienne avec le temple de Dieu à Jérusalem la lui avait fait connaître. Il avait sous les yeux, à l'entrée du sanctuaire, cette colonne de Boaz qui signifiait « En lui est la force ». Aussi, avec quelle assurance, au moment d'en venir aux mains, il s'adresse à l'Éternel. « Éternel, il n'y a pas de différence pour toi pour aider entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. » Verset 11. C'est dans cet esprit qu'Asa entreprend la lutte. Il reconnaît beaucoup de force à l'ennemi, à lui-même aucune. Mais il s'avance au nom de l'Éternel, s'appuyant sur lui, nullement inquiet de sa propre faiblesse, parce que la puissance de Dieu s'y développe. Tout ce passage est la leçon de notre force. Le plus puissant ennemi n'a aucune force contre Dieu, et il suffit de la foi pour en faire l'expérience. Satan lui-même a dû le reconnaître quand sa haine s'est attaquée à Christ. Sur la croix, où il croyait s'être enfin débarrassé de lui, il a trouvé la puissance de Dieu dans la faiblesse de Dieu. Les Éthiopiens s'enfuirent. Ils ne purent reprendre leur force. C'est qu'Israël était non pas l'armée d'Asa, mais l'armée de Dieu. Ils furent abattus devant l'Éternel et devant son armée. Verset 13. Cette victoire d'Asa ne fut pas seulement la défaite de l'ennemi, mais une conquête positive de villes, de butins, de troupeaux, de richesses. Versets 14 et 15. C'est ainsi que toute victoire sur l'ennemi, basée sur le jugement de nous-mêmes, est pour nous la source d'acquisitions nouvelles et précieuses, puisées dans le trésor des richesses insondables de Christ. Après la victoire, Asa et son peuple retournèrent à Jérusalem. Là, dans la cité de Dieu, auprès du temple de l'Éternel, dans la communion avec lui, ils vont renouveler leurs forces. L'histoire profane ne nous dit rien de ce combat mémorable. Zérak et son million d'hommes est une fable aux yeux des incrédules. Les monuments, nous disent-ils, ne mentionnent pas ce combat extraordinaire. Pour le croyant, ce silence est bien simple. Asa ne peut proclamer sa propre victoire sur l'Éthiopien. C'est à Dieu, dont elle est la victoire, à l'enregistrer. On ne peut donc trouver ce monument que dans la parole écrite. Et pensez-vous que Zérak proclamera sa défaite? Avez-vous jamais trouvé une inscription d'Égypte, de Syrie, de Moab ou de la Syrie où leur roi enregistre une défaite? De ce côté-là, silence absolu. Le roi de Moab proclamera plus tard ses victoires sur la pierre de Moab, mais non la défaite qui les a précédées. Telle est la confiance qu'on peut mettre en l'authenticité de l'histoire écrite par l'homme.